Bonjour à tous et bienvenue sur cette édition spéciale du Mug, c'est le 116, on est sur la chaîne principale, nous sommes le vendredi 13, et oui, vendredi 13 mars 2020, et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce matin. Je sais, les temps sont durs, les temps sont difficiles, beaucoup de mauvaises nouvelles, mais on est là pour vous apporter de l'info, mais aussi le sourire, hein, on va essayer un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce live sur la chaîne principale, je rappelle que le Mug Nowtech, c'est tous les jours de la semaine du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire Nowtech Live. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre l'actu tous les jours. Et le vendredi, on se retrouve tous en famille sur la chaîne principale. C'est la fête du slip. Donc tout le monde agite son slip. Non, non, ne faites pas ça. C'est pas... Non, ne faites pas ça. Je n'ose imaginer tout le monde dans la chatroom en train d'enlever son slip et de le secouer au-dessus de la tête. On va pas faire ça du tout. Hein, télétravail avec les enfants, ça va être sport. Ouais, une pensée pour tous les parents. Effectivement, par rapport aux annonces d'hier, je pense que c'est une bonne mesure, mais ça va peut-être pas être facile dans l'application. Et je tousse et j'éternue. Voilà, je dis juste ça. Je suis dans la salle de petit-déj d'hôtel. Non, alors surtout, tu fais pas ça, technique savoir. Jérôme, tu veux pas faire comme Marion, finir hier à 9h? Non. Non, non. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Bon, allez, on arrête de perdre du temps. On a beaucoup de choses à voir ce matin. Je vous rappelle que le vendredi, on fait un récap des news de la semaine, de celles que j'ai sélectionnées. Et après, on fait les news du vendredi. Donc déjà, c'est du lourd. On a une tartine aussi. Et puis, on terminera par le cornfac où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Hein, retenez-vous jusqu'à la fin de l'émission si vous avez des questions hors sujet, hors nos sujets, à nous poser. On commence tout de suite par le kawa. Merci beaucoup Pascal M qui démarre fort en nous faisant, c'est les super stickers, ça, un petit super sticker qui tout saute en forme de poire. Il va avoir du succès celui-là. Hein, bravo, bravo. Allez, les articles que j'ai retenus cette semaine qui étaient intéressants, ce n'est pas forcément les plus gros articles, mais les articles que j'ai trouvés intéressants. Effectivement, Marion a dit hier, YouTube va commencer à remonétiser les vidéos qui parlent du fameux coronavirus. Nous, c'est vrai, là déjà j'ai prononcé le mot, tous nos replays depuis 2 semaines sont démonétisés. Parce que soit on a mis coronavirus dans le titre, soit on en parle. En même temps, alors j'ai pas fait forcément passer le mot d'ordre à Guillaume ou à Marion, mais c'est pas parce qu'on est démonétisé qu'on va pas apporter l'info. Le rôle premier du Mug, c'est de vous apporter l'info. On va pas se biper parce qu'il y a une démonétisation. De toute façon, on va être complètement les yeux dans les yeux. C'est pas la monétisation du Mug qui le rend un tant soit peu rentable. C'est pas l'argent de la pub YouTube. On le met quand même parce que c'est un principe. Hein. On travaille pas gratuitement. Mais une démonétisation d'un replay du Mug n'est pas une catastrophe industrielle pour nous. Ça serait beaucoup plus embêtant sur les vidéos montées qu'on met... sur la chaîne, les vidéos que vous voyez d'habitude, où là, on fait un petit peu plus attention à la monétisation. Mais YouTube a décidé donc de remonétiser. Ça va être un travail difficile parce que ça demande un contrôle humain. Ce qu'ils veulent, c'est trier entre les vidéos qui profitent de cette de cette pandémie, on en parlait tout à l'heure, c'est une pandémie, pour faire du business ou pour faire passer des fausses infos ou des remèdes miracles avec des poils de cul de chameau, avec de la méduse écrasée qui soigne tout et les ongles incarnés. Ils veulent éviter ça, mais en même temps, et c'est vrai quand même, aujourd'hui, YouTube est une source d'information pour une grande partie de la population. Beaucoup de gens quand même regardent YouTube. C'est pénaliser les acteurs et les créateurs de contenu qui apportent ces news que de les démonétiser. Donc voilà. C'est quand même dégueulasse de la part de YouTube de museler les créateurs de cette façon, alors que c'est de l'info du... Non, Matt, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que YouTube a au contraire pris une bonne mesure. Alors, elle était un peu coup de hache dans le tas de bûches, mais de tout de suite couper la monétisation pour éviter, justement, il y avait quand même beaucoup de vidéos qui essaient de profiter de la panique ambiante et de l'atmosphère ambiante pour faire du buzz, pour faire passer tout et n'importe quoi. Alors effectivement, ceux qui ont souffert, c'est ceux qui essayaient d'apporter de la vraie info, mais c'est extrêmement difficile de séparer les deux. Donc YouTube a pris une mesure rapide qui certes a eu des dommages collatéraux, mais je pense qu'ils avaient pris la bonne décision et qu'aujourd'hui ils prennent la bonne décision d'essayer de commencer à faire le tri pour remonétiser le bon contenu autour du coronavirus, ce qui n'est pas forcément évident, quoi. Non, je trouve là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de raisons et beaucoup de choses qu'on peut reprocher à YouTube, mais je trouve que là, ils ont plutôt bien agi. On continue, et justement, je disais, le coronavirus est une pandémie. C'est ce qu'on vous expliquait, je crois que c'était hier, Marion. Aujourd'hui, effectivement, le coronavirus, c'est maintenant une pandémie. On a passé le stade d'épidémie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est important de comprendre. Pandémie, tout de suite... On a la vision peste noire. La pandémie n'est pas la gravité du coronavirus, mais simplement une question d'échelle. Pandémie veut dire que, un, le virus est incontrôlable. Dans le sens incontrôlable, ça ne veut pas dire « ouais, il est tout fou, il tue les gens avec des grandes serpes de partout ». C'est simplement qu'aujourd'hui, on ne peut plus appliquer des mesures pour empêcher le virus de se répandre. Aujourd'hui, il est trop répandu pour être contrôlé. Donc, on passe dans la phase de comment on traite ça, comment on traite les malades, etc. Et c'est surtout que le virus, maintenant, passe d'un pays à l'autre. Enfin, il est globalement sur l'ensemble du globe. Et c'est ça que ça veut dire pandémie. C'est vraiment l'ordre de grandeur, ce n'est pas la gravité du virus. C'est vrai que dans l'imaginaire pandémie, on voit les films catastrophes, etc. Attention, hein, je ne suis pas en train de minimiser la gravité du coronavirus. Je suis simplement, voilà, on essaye de garder la tête froide. C'est une crise qu'on affronte. La meilleure chose à faire dans une crise, c'est de garder son calme et de garder la tête froide. Tout le reste ne sert à rien. Soyez pas un petit pantin à s'agiter dans tous les sens. Ah là 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 là, ça sert à rien. Donc voilà. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer justement de vous apporter ce type d'infos qui est importante. Une pandémie, ça ne veut pas dire que c'est plus grave que la semaine dernière. Simplement plus étendu. Voilà. Oui, mais les enfants sans école, c'est chaud. Il y a un moment où il faut classer les problèmes. De toute façon, voilà. C'est chaud. On vit une situation chaude, exceptionnelle, grave. C'est une crise. Ah, on ne va pas non plus se cacher derrière nos petits doigts et en disant, oh là là... Voilà, on doit changer nos habitudes, on doit changer notre vie pendant la durée où va durer cette pandémie. Il n'y a pas d'autre chose à dire, en fait. Et les implications sont énormes. Et les implications économiques, on en parlera tout à l'heure, sont énormes. Hein. Je ne suis pas en train de minimiser en disant « Oh là, tout ça, ça va passer, c'est rien qu'une petite grippe ». On le sait aujourd'hui, ce n'est pas une petite grippe. Et les conséquences sont plus graves et la mortalité est plus grave que la grippe. C'est pas la même mortalité que la peste noire, mais c'est pas la même mortalité non plus que la grippe. Voilà. Oh là là, la chatroom, on est... Non, non, mais c'est sûr qu'on a des tonnes d'infos qui arrivent. C'est difficile de faire le tri. On parle quand même d'autre chose, de ce qui s'est passé cette semaine. Le Escobar Fold 2, ce fameux smartphone lancé par le frère de Pablo Escobar. C'est une arnaque. Marcus Brownlee, à sa grande habitude, a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Lui avait commandé les deux. C'est effectivement un fold recouvert d'une feuille d'or. Mais surtout, l'arnaque, elle est pas là. Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est cool, un fold 2 à 400 $, c'est vachement rentable. Non, 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 non. L'arnaque, c'est justement qu'elle n'est envoyée qu'à des influenceurs. Il n'est envoyé qu'à des influenceurs. C'est-à-dire que il leur envoie, ils identifient effectivement, ils trouvent les commandes des influenceurs, YouTube, Instagram, etc. Ils leur envoient en faisant croire que le téléphone maintenant est disponible pour récolter des commandes. Mais si vous n'êtes pas un influenceur, si vous n'avez pas beaucoup de followers et tout ça, vous ne recevrez jamais votre smartphone. Donc, c'est une arnaque. On n'en attendait pas moins. Finalement, c'est un smartphone qui rentrera dans la légende, on va dire. On continue et un article très intéressant qu'a fait Guillaume mercredi sur le classement des navigateurs selon leur degré, on va dire, de dévoilage de votre vie privée. Quels sont les navigateurs qui protègent le moins bien votre vie privée? Eh bien, allez voir l'article de Guillaume parce qu'il est très fouillé et il vous parle de tous les navigateurs. Mais on le sait aujourd'hui, Microsoft Edge et Xandex, qui est un navigateur russe, sont aujourd'hui les pires navigateurs dans la protection de la vie privée. Guillaume vous explique pourquoi. Après, de mon souvenir, on a, je crois qu'on a Chrome, Safari, Firefox. Je sais plus, je crois que Brave, c'était pas mal. Je crois que c'est même le meilleur en protection. Je sais plus. Merci Arnaud, j'espère qu'Escobar ne te fera rien pour ses propos. Eh, je ne fais que... Eh, tirez pas sur le messager, hein. J'ai envie de dire. Alors, pour choper l'article de Guillaume, il suffit d'aller écouter le replay du mug sur Nowtech Live, le mug de vendredi. Guillaume, parce qu'il ne s'est pas basé vraiment sur un article, il a construit un article, Guillaume, dans sa tartine. Sur justement, il est parti effectivement d'un article de Beta News, mais l'article ne fait pas forcément le classement. Voilà, donc allez voir ce qu'en dit Guillaume de tous les navigateurs, Opéra, etc. C'est celui de mercredi, j'ai dit vendredi. Celui de mercredi, celui de Guillaume, de cette semaine, le replay du mug est disponible sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Voilà. Non, c'est celui de mercredi, parce que Guillaume avait changé avec Marion. Il a fait mercredi. Hier, c'était Marion. Arrêtez de me mélanger, hein. Je sais ce que je dis, quand même. dans les nouvelles intéressantes de cette semaine, il y a également iOS 14, enfin une vraie gestion de la souris pour l'iPad, probablement un clavier avec trackpad. Alors, je redis ce que j'ai dit parce que c'est moi qui avais fait cet article. C'est une annonce majeure, pas forcément pour l'iPad. Moi, j'espère vraiment de tout mon cœur que l'iPad ne sera jamais un ordinateur qu'on drive avec une souris, etc. Parce que c'est son côté touch dans l'interface qui en fait son côté pratique. Néanmoins, dans certaines applications, dont Shadow, on aurait bien besoin d'une vraie gestion de la souris. Mais moi, je n'ai pas envie de pouvoir piloter mon iPad avec une souris. Ça n'aurait pour moi aucun intérêt et ça obligerait à redessiner l'interface de l'iPad. Et ça, je le veux pas parce que j'aime beaucoup l'interface de l'iPad. J'ai pas envie, en gros, que l'iPad devienne une surface. J'ai rien contre les surfaces, mais les surfaces sont pour moi une interface d'ordinateur qui peut faire tablette. Alors que l'iPad est une tablette qui, dans certaines circonstances, en ouvrant certaines apps, peut se comporter comme un ordinateur. C'est complètement différent pour moi. Donc c'est une bonne nouvelle avec iOS 14, ça devrait arriver. Une autre news intéressante pour vous, pour ceux qui attendent la fibre comme le Messi, La carte de l'ARCEP a été mise à jour et vous pouvez suivre maintenant le raccordement de votre quartier, même de votre maison, et surtout les plans de raccordement du futur. Donc, vous pouvez voir si, bah, de toute façon, vous l'aurez jamais, parce qu'il n'y a même pas d'études qui sont menées, ou vous pourrez aller voir dans combien de temps est prévue l'arrivée de la fibre en bas de votre immeuble, à côté de chez vous. Donc, anticiper un petit peu l'arrivée de la fibre. Et tout ça, c'est sur le site de l'ARCEP. Merci beaucoup, My Alien Production, pour ton super chat. Une tablette hardcore pour faire du montage vidéo, c'est pour quand ? J'en parlerai bientôt de ça. Me noyez pas sous les questions. On a fini les news de la semaine, mais on a les news du vendredi. Et les news du vendredi, il y en a. Hein, il a fallu effectivement faire le tri ce matin. On commence tout de suite en parlant des Royaume-Unis qui vont taxer à leur tour les GAFA à partir du 1er avril. Mauvais choix de date, mais bon, c'est comme ça. Donc le Royaume-Uni prend la suite de la France. La France qui va bientôt normalement adopter définitivement la taxe GAFA le 11 juillet 2019. Contre l'avis des États-Unis, on a vu la guéguerre, même si depuis ils sont rabibochés un petit peu. En fait, ce que souhaite la France, et je le rappelle, c'est qu'il y ait une décision mondiale au niveau de la taxe des GAFA sur leur chiffre d'affaires. Mais comme ça bouge pas, la France, elle a pris sa bite et son couteau, et allez, on y va, nous on taxe. Très français comme attitude, mais bon, on va pas cracher dans la soupe, il faut faire bouger les choses. Tant mieux si, pour une fois, on a le lead. Tout l'enjeu, c'est pas de se retrouver tout seul avec tous nos potes derrière qui disent « Non, non, nous, on n'y va pas, tu restes tout seul avec ta bite et ton couteau, là. On déconnait, hein. On va pas vraiment le faire. » Ça, c'est toujours le risque quand tu pars tout seul, quand même. Le côté Don Quichotte. Il faut bien un premier. Oui, mais Don Quichotte, ça existe aussi. Hein. Mais bon, a priori, on commence à nous suivre, les Royaumes-Unis. Et pour les Royaumes-Unis, c'est une décision ultra courageuse aussi. Les Royaumes-Unis qui quittent la communauté européenne, qui quittent l'Europe, qui se retrouvent maintenant un peu en frontal avec les États-Unis. Trump, il va pas beaucoup aimer. Même si, là, on va pas parler de Trump, mais on va parler des États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas Trump, ne l'oublions pas. Les États-Unis sont plutôt d'accord qu'il faut taxer. C'est juste qu'ils aiment pas trop qu'on décide à leur place. Ce qui est compréhensible. Hein. Même d'un point de vue, on va dire, orgueil. C'est quand même des entreprises américaines, qu'on le veuille ou non, qui lead le web pour l'instant. Ça va peut-être changer dans les 10 ans à venir avec la montée de la Chine. Mais le fait est, c'est que pour eux, c'est quand même des Apple, des Google, c'est des entreprises américaines. J'ajouterai une nuance à ça, c'est que je pense que des Apple, des Google et tout ça ne se voient pas, eux, comme des entreprises américaines, mais comme des entreprises internationales. Pas de majuscule, s'il te plaît, overkill dans la... Bah voilà. Il faut jamais écrire en majuscule dans la chatroom. Sinon, bim! Parce qu'on n'aime pas les majuscules. Les majuscules, ça veut dire que vous nous gueulez dessus. Et on ne va pas se gueuler dessus dès 8 heures du matin, même si je parle fort. Tout comme la France n'est pas Macron, tout à fait, bien évidemment. Effectivement, l'Angleterre va taxer à hauteur de 2% du chiffre d'affaires les GAFA. Cette taxe ne s'appliquera qu'aux entreprises générant un chiffre d'affaires mondial de plus de 500 millions de livres, soit 560 millions d'euros, dont 25 millions de livres au Royaume-Uni. Après son application le 1er avril, elle pourra rapporter près de 400 millions de livres, plus de 450 millions d'euros, par an d'ici 2022. Bon, en même temps, on sait que les Royaumes-Unis, ils sont plutôt en recherche de cash hein, en ce moment, parce que la sortie de l'Europe va pas être simple non plus. Mais ce n'est point le sujet. C'est bien que d'autres pays s'y mettent. Il faudrait qu'il y en ait plus pour que, justement, ça pousse le monde entier à prendre une décision commune, qu'on se mette d'accord sur... Même les GAFA sont d'accord pour être taxés. Si vous les écoutez. Même eux, ils veulent faire moins. Enfin, ils trouvent ça, au fond, ils trouvent ça normal. Ils ont bien contourné les... Alors, ils n'ont pas contourné les systèmes, mais ils ont bien profité du système pour mettre un maximum d'argent hors fiscalité. Mais je pense qu'eux-mêmes savent que ça ne peut pas durer. Oui, mais overkill. Là, tu vois, tu nous dis les majuscules t'aident à mieux voir ce que t'écris, mais tu penses à toi. Tu penses pas à nous. Et lire quelque chose en majuscule, je te garantis, dans une chatroom, surtout quand tu présentes, c'est extrêmement agressif, en fait. C'est vraiment comme si on te gueulait dessus. Et si une personne le fait, tout le monde va s'y mettre. Ça, je connais quand même bien les chatrooms. Et si on commence à tolérer les majuscules, c'est la fête du slip. La chat commu room. Ah, il y en a qui ont vu l'émission avec Hard Disk. Elle est en replay, hein, d'ailleurs. L'émission Turfu sur le live que j'ai fait mardi soir. Elle est dispo en replay sur la chaîne Le Live, si vous voulez aller voir ce que j'ai fait avec Hard Disk sur le Turfu. Donc, on peut crier, mais en minuscule, tout à fait. Eh, les gars. On continue. Vous essayez de me distraire, la chatroom. Je ne me ferai pas avoir. Puisqu'on va parler maintenant du Bitcoin. C'est un bain de sang. C'est un massacre. Ma pauvre dame, quelle époque on vit. C'est un crash, effectivement, des crypto-monnaies. Elles ont chuté de plus de 40% en l'espace d'un mois. Le Bitcoin revient à des niveaux vers les 5 000 $. C'est des niveaux planchers d'une certaine époque. En gros, on est revenu au Bitcoin de 2016. Rien que jeudi, le Bitcoin a lâché 22%. L'Ethereum a chuté de 28%. Le Bitcoin Cash de 32%. Et c'est surprenant, puisqu'on a beaucoup dit que les cryptos allaient être une valeur refuge au même titre que l'or. Une valeur refuge, c'est ce que les gens vont acheter quand c'est un krach boursier. Et le krach boursier, on est en plein dedans. Là aussi, on va pas se mentir, on va pas dire c'est un petit krach boursier. Non, là, c'est un bon gros krach boursier, non seulement qui arrive, mais qui nous attend. Parce que je pense que c'est pas fini. Ceux d'ailleurs qui s'excitent en disant « Oh là là, il faut acheter, il faut acheter !» Allez-y doucement. C'est juste après, c'est votre argent. N'oubliez pas que le capital investi dans des actions est un capital que vous pouvez perdre. Voilà, j'ai fait les avertissements légaux, légaux. Hein, je parle pas des petites briques. C'est votre argent. Vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que les investissements dans les capitaux à risque, il faut toujours les envisager en se disant cet argent, je peux le perdre jusqu'au dernier centime. Donc moi, c'est mon conseil d'ami. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. Voilà. Ça est dit. Merci beaucoup Arnaud pour ton super chat. Le Bitcoin est comme une vieille dame en camisole. Non, ça c'est la bourse, tu mélanges tout. Le Bitcoin, c'est un jeune en camisole qui prend de la drogue. C'est autre chose. Pour ceux qui ne comprennent rien, c'était hier nos discussions sur la bourse dans le jeudi VIP où j'expliquais que la bourse était une vieille dame en camisole de force qui se tape contre les murs. C'est une manière de comprendre comment la bourse fonctionne. Je réexpliquerai ça un jour. Bref, le Bitcoin, ça va mal. Est-ce qu'il faut en acheter maintenant? C'est à vous de voir. Je vous donnerai un dernier conseil. Ce que vont dire des investisseurs, c'est que quand il y a une période d'achat, et effectivement, les crises sont des périodes d'achat, soyons cyniques, achetez par palier. Si vous voulez investir 1 000 euros, ne dépensez pas plus d'un tiers de ces 1 000 euros dans un premier tour. Voilà. Parce que ça peut continuer à baisser, hein, ça peut continuer à dégringoler. Hein. Il n'y a pas de plancher tant qu'on n'est pas à zéro. Hein. Donc voilà. Salut Steven. Il est descendu à 350 euros dans la nuit. Ah ouais, 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 ouais. N'oubliez pas aussi une chose fondamentale. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Les gens qui disent oh, « J'ai perdu 6 000 euros en Bitcoin !» Non ! Tu les as pas encore vendus, tes Bitcoins. la valeur de tes bitcoins a perdu 6000 euros, ok, mais tant que tu les as pas vendus, t'as pas perdu. Voilà. Et tant que t'as pas acheté, t'as pas gagné. C'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est pareil. J'ai dit 350, 3500, pardon, euros. Oui, oui, 3500, j'ai fourché. Ce qui fait dire que la crise est quand même extrêmement grave, hein, on va encore une fois pas se cacher derrière notre petit doigt, même l'or chute, c'est-à-dire même les valeurs refuge chutent. Ça veut dire que l'indice confiance dans l'économie, là, la vieille dame hystérique qui est la bourse, avec sa camisole de force qui se tape dans les murs, là, elle a la bave aux lèvres et elle a les yeux exorbités. Donc, l'indice de confiance, et d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent de l'indice de confiance, parce qu'il y a une mesure, un indice de confiance, le VIX, l'indice de la peur, qui mesure la nervosité des investisseurs, a gagné 25%. Aujourd'hui, on est dans une situation très, très confuse, où il y a énormément de peur. Voilà. Elle a la rage, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, là, si vous n'êtes pas habitué à des crashs boursiers, si vous n'en avez jamais vécu, c'est le premier de votre vie, ne regardez pas et n'y allez pas. Vous allez prendre des coups, vous allez paniquer, c'est pas la peine, quoi. Il faut une certaine expérience du krach boursier. Moi, ça va, hein. En tant que génération X, j'en ai connu des krachs boursiers. On a eu une autre lot. Mais a priori, là, le krach boursier qui nous attend, on va pas se leurrer, il va être plus grave que celui de 2008. C'est fort, beaucoup plus que probable possible. Oui. Toute l'économie va mal. Hier, le CAC 40, oui, le CAC 40, il a perdu plus de 12% hier. 12,28, pire journée depuis sa création en 1988. Et oui. Oui, non, mais je ne suis pas là non plus pour vous dire « Ah, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Hein. » La situation est grave. Mais une crise, ça s'affronte. C'est pas la peine de courir dans tous les sens en disant « Ah là 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 là. » Bref. Ils ont même annulé les séances à Wall Street. Mais ça, ça arrive. Hein. 9-11 aussi, la bourse avait été arrêtée. Quand les choses partent trop en sucette, effectivement, il y a des suspensions de séances. Mais ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Hein. Ce n'est pas un signe non plus de... on n'en est pas encore à 1929, si vous voulez mettre les choses en perspective. Et de toute façon, en théorie, 1929 ne peut plus se produire. En théorie. Alors, explique-nous comment gérer une crise économique, on en a besoin. Mais je suis pas non plus Dieu le Père. Hein. Alors, il y a un truc que je peux vous dire, ça sert à rien de paniquer, et il faut avoir du courage et garder la tête froide. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner pour vous sortir d'une crise, quelle qu'elle soit, personnelle, économique, ou quoi que ce soit, il faut garder la tête froide, faut respirer et c'est pas la peine de succomber à l'ambiance, au truc ambiant, à l'hystérie ambiante. Première chose à faire, ne pas relayer des infos sensationnalistes, faire attention à ce qu'on lit, croiser ses informations, trouver ses propres sources et rester calme. Ça sert à rien de paniquer. C'est toujours contre-productif de paniquer. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et les stocks de papier de toilette, désolé de le dire, il y en a qui vont pas m'aimer de le dire, mais c'est complètement stupide, hein. Parce que si vraiment il y a des problèmes d'approvisionnement de papier de toilette, c'est pas parce que vous avez rempli un 12 mètres carrés de papier de toilette, vous durerez peut-être un petit peu plus longtemps, mais vous aurez moins d'hémorroïdes que le reste, mais voilà, c'est tout. Et ceux qui croient qu'ils vont faire des fortunes en construisant du marché noir, parce que j'en entends, c'est la crise, on va bientôt manquer d'eau, on va manquer de papier cul, on va manquer de gel, on va faire fortune, j'ouvre ma petite boutique dans ma cave. Non, 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 le marché noir, ça marche pendant la guerre, on en est encore loin. Et dites-vous bien que même en faisant d'énormes stocks chez vous, vous ne serez jamais les gagnants d'un marché noir. Ça se passera au niveau de la production, en fait. Alors, d'accord. Nous, là, on est vraiment dans Walking Dead. Hein. Il y en a qui nous disent qu'il faut se rincer le cul dans la douche. Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. On continue, effectivement, pas sur le Bitcoin. On continue, on va parler, effectivement, de la 5G. Hein. Revenons à des news un petit peu plus normales. La France va autoriser partiellement Huawei pour la 5G. Effectivement, les opérateurs télécoms vont être autorisés à utiliser partiellement, le partiellement est important, les équipements de Huawei pour déployer la 5G et ça, malgré les appels du gouvernement américain à ne pas travailler avec Huawei. Donc, la France encore fait un petit... Bref. Alors, c'est un petit... Parce que l'idée, c'est quand même... Je le décris pour ceux qui nous écoutaient en audio, j'ai fait un bras d'honneur. Hein. Ce bruit-là, ça veut dire bras d'honneur. Désolé, hein, j'avais oublié un peu ceux qui nous écoutent en audio. Attention, pour les antennes et tout ça, Huawei, ça ira. Mais par contre, les parties vitales des réseaux, les cœurs de réseau, la France ne va pas autoriser effectivement l'équipement Huawei. Donc, c'est un petit oui. Oui, pour tout ce qui n'est pas très important, on pourra utiliser de l'équipement Huawei. Mais pour les cœurs de réseau, pas question d'utiliser Huawei. Donc, c'est le bras avec lequel on donne son sang. What? Mais qu'est-ce? Mais... on n'a pas le droit de faire des bras d'honneur parce que c'est le bras avec lequel on donne du sang. C'est quoi cette nouvelle règle? Donc, ça va être un mix entre les équipements Huawei et d'autres marques. Tout à fait. Tout à fait, ça va être un mix, mais ça va peut-être permettre notamment à la 5G française qui est largement en retard d'aller un peu plus vite avec des antennes Huawei, un petit peu plus vite, un petit peu moins cher. L'antenne, c'est pas un truc névralgique d'un réseau, donc ça va peut-être permettre un déploiement plus rapide. Attention à pas probable. Ah oui, c'est vrai, oui. Il faut se moucher et éternuer avec le coude. Donc, ouais. Disons que n'enchaînez pas le bras d'honneur après avoir éternué, c'est pas une bonne idée. Ah, merde. Bon, bref, on est en train de... Je sens, on est dans les graviers, là. Vous sentez le crissement des pneus, le mec qui arrive pas à rester sur ses articles, vous le sentez bien, là. Allez, on continue. On va parler de Google et des pratiques de Google envers les fabricants de Smart TV. Et c'est pas joli joli, puisque Google impose des règles assez strictes pour pouvoir mettre Android TV dans les Smart TV. Ce que précise Google, c'est que vous n'avez pas le droit, se réserve le droit de révoquer la licence d'utilisation Android pour si vous utilisez un système dérivé d'Android. Coucou Amazon Fire TV, qui est un fork d'Android utilisé par Amazon. Eh bien, les constructeurs qui rendraient leur téléviseur compatible Amazon Fire TV, c'est pour ça qu'il n'y en a pas qui sont compatibles Amazon Fire TV, eh bien, risquent de perdre la licence Android et le droit d'utiliser Android. Et non seulement sur leur télé, mais sur l'ensemble de leurs produits. Donc, un fabricant comme Samsung ou LG qui fait des smartphones plus des télés, eh bien, s'ils les perdent pour la télé, ils perdent Android aussi pour leur smartphone et pour... oui, et pour leur smartphone. Imaginez, et on le voit avec ce qui se passe pour Huawei, un constructeur comme Samsung qui perd le droit d'utiliser Android, c'est pas simple. C'est un petit peu compliqué, hein, derrière de vendre ses smartphones. Donc... C'est, alors, est-ce que c'est bien légal? C'est une excellente question, hein, Benjamin. Et en ce moment, la FTC américaine est en train de checker justement ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a ce type d'article qui remonte. Des pratiques qui ont eu lieu, qui ont eu lieu de la part des GAFA de verrouiller des marchés comme ça ne plaisent pas à la FTC américaine. C'est des situations de monopole, c'est de l'abus de pouvoir. Donc, c'est probablement des pratiques qui vont être dans le viseur, justement, dans le procès actuel qui a lieu aux États-Unis. Oui. Euh, Ce serait un très gros coup dur pour Google de voir Samsung bloqué. Oui, mais ça serait aussi un coup très très dur pour Samsung. Quelque part, c'est un peu « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, hein, cette situation-là. Il y en a qui sont restés bloqués sur le PQ. Franchement, si vous restez bloqué sur le PQ, c'est peut-être que vous avez besoin de faire un tour aux toilettes. Là. Le café est en train de faire son effet. Hein, si vous êtes encore en boucle sur le PQ, c'est un conseil que je vous donne. C'est, il faut écouter son corps. Allez, je continue. Je continue et je continue et je finis, effectivement. Justement, on va parler de notre sponsor tout à l'heure. Vous savez que notre sponsor, c'est Shadow avec le Shadow PC. Donc, je vous en informe parce que, voilà, c'est notre sponsor. Donc, tout article où on parle du Shadow PC, il est à prendre par vous avec des pincettes. C'est notre sponsor. Bien évidemment, on va pas s'empêcher de parler des bad buzz hein, de notre sponsor. On l'a déjà prouvé puisqu'on a parlé des problèmes que Shadow avait à fournir son offre Ultra Infinite. On a essayé de parler sans langue de bois. On a même invité des gens de Shadow pour vous répondre. Néanmoins, parce que c'est mon devoir de vous informer des liens financiers qu'on a avec certaines marques avant de vous faire l'information. Donc, voilà, je le reprécise, Shadow est le sponsor de cette émission, de ce live. Attention, ce n'est pas le sponsor de la chaîne Naotech, mais de ce live. Donc, l'info qui va suivre, c'est une information par rapport à notre sponsor. Puisque Shadow a annoncé hier qu'il allait évoluer aux États-Unis et il s'offre un partenariat avec LG. C'est une info assez importante hein, dans la vie de Shadow et des Shadow PC, puisqu'elle va étendre son offre à l'ensemble du territoire américain. Ils avaient déjà un pied dans l'eau hein, aux États-Unis. Il y a déjà eu un, on va dire presque un pré-lancement de Shadow l'année dernière aux États-Unis. Linus Tech Tip avait même fait une vidéo sponsor pour Shadow. Donc, on pouvait déjà utiliser un Shadow PC aux États-Unis. Les serveurs ont commencé à être construits, mais là, justement, ils ont couvert le territoire en serveurs. Je crois qu'il y a 4 points de serveurs Shadow aux États-Unis. C'est un marché qui représente déjà plus d'un tiers des utilisateurs de Shadow avec une croissance de plus de 50% ces derniers mois. Il propose, un peu comme en France actuellement, c'est l'offre Boost qui va être à 11,99$ par mois. Pour l'instant, pas d'Ultra et d'Infinite aux États-Unis non plus. A priori, d'après ce que je comprends, le déploiement, de l'offre Ultra et Infinite, qui a pris du retard, sera international. A priori, voilà, on devrait avoir les Ultra et les Infinite en même temps que les Américains ou relativement pareil. Alors, je sais ce que vous me dites dans la chatroom, j'ai même pas besoin de vous lire. Certains doivent dire, plutôt de s'occuper des États-Unis, Shadow, il ferait mieux de s'occuper de leur retard en France et de fournir tous les produits et tout ça en France. On peut pas raisonner comme ça avec une entreprise. D'abord, il faut savoir que c'est une filiale. Il y a un Shadow US qui n'est pas indépendant de Shadow France, mais qui a son propre fonctionnement, ses propres équipes et leurs propres serveurs. Donc les problèmes que, par exemple, Shadow France va rencontrer dans le déploiement de serveurs pour l'Ultra et l'Infinite ne vont pas forcément être les mêmes que vont rencontrer les équipes de Shadow aux États-Unis. Quand on est une société internationale, c'est pas une question de dire « Oula, les États-Unis attendront, on va d'abord réserver les serveurs pour la France ». Ça peut pas marcher comme ça. Voilà. Voilà, je lis Vincent. Plutôt que de s'occuper des États-Unis, il devrait plutôt s'occuper de la France. Non, mais je vous le dis, je comprends après que d'un point de vue consommateur et utilisateur, ça soit frustrant. Et j'imagine le bad buzz, si les États-Unis ont des Ultra et des Infinite avant la France, on va avoir les grosses boulasses, c'est clair. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, parce que c'est pas les mêmes serveurs, c'est pas les mêmes problématiques. La différence entre l'Ultra et l'Infinite, je te conseille d'aller voir sur le site de Shadow pour voir les deux offres. C'est des questions de spécification. L'Infinite, c'est la config la plus puissante. Après, il y a l'Ultra. Et sinon, il y a la Boost en entrée de gamme. Le problème, c'est la VR chez eux avant nous. Pour l'instant, en tout cas, le RTX, le Ray Tracing, est annoncé cet été aux États-Unis, comme c'est annoncé en France. Mais le virus ralentit la fabrication de la tech. Oui, après, je ne sais pas dans les détails. Je sais que, par exemple, le coronavirus a ralenti la fabrication des Shadow Ghost, les boîtiers pour Shadow, qui ont du retard en livraison, parce que c'est un produit manufacturé. Le problème, aujourd'hui, de la livraison des Ultra et des Infinite, c'est que c'est pas des cartes graphiques qu'on achète dans le commerce, hein. C'est de l'équipement de gros serveurs de réseau. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des augmentations de prix, notamment sur la mémoire vive. Et surtout, ils ont des problèmes de chauffe, d'après ce que je sais, sur les Ultra, les Infinite. Donc, il y a encore des problèmes de mise au point, en fait, des serveurs. Comment ils vont garnir les armoires de serveurs pour les offres Ultra et Infinite. Ils ont fait des études de marché aux USA, Shadow, parce qu'avec leur mauvaise qualité de connexion. Il faut savoir que les connexions aux États-Unis se sont largement améliorées ces 5 dernières années. Hein. Oui. Alors, on peut déjà faire de la VR avec le Shadow. C'est pas encore officiel. Il y a des méthodes pour brancher des casques VR sur Shadow. Allez lire sur les forums. Certains y arrivent à faire tourner de la VR. On va dire que le côté officiel de la VR est en ça qui est vachement performant. C'est-à-dire, c'est ce que je vous avais expliqué. Le Shadow, on pourra l'installer dans une visière smartphone. Un petit peu comme les Oculus Quest. Donc des visières pas chères. Vous installez l'application Android Shadow et vous pourrez lancer vos jeux. Du coup, ça va permettre des clients extrêmement légers dans des visières avec des puissances légères. Pas besoin d'avoir la grosse visière, mais ça va quand même la puissance de votre Shadow qui se balance dans les lunettes, dans la visière. Donc ça, c'est vachement intéressant. On en reparlera quand les choses seront plus officielles ou que j'irai chez Shadow et on pourra montrer la progression de la VR. Retenez juste que la VR n'est pas officielle chez Shadow. Certains y arrivent. Voilà. Entre Stadia et Shadow, c'est quoi le mieux? Bah, va voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo comparative. Une deuxième annonce qui est hyper importante, laissez-moi terminer, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec LG. Et c'est un partenariat plus qu'un partenariat. LG rentre au capital de Shadow. Et ça, c'est une information importante, même en termes de liquidité. Aujourd'hui, Shadow est quand même une start-up. Une start-up, ça crame du cash. Je suis pas dans les comptes de Shadow, mais je pense qu'ils sont très très loin d'être rentables pour l'instant, comme n'importe quelle start-up. Hein, pour l'instant, ils crament du cash. Et donc, la survie d'une start-up repose sur sa capacité à attirer des investisseurs. Je connais pas les montants, mais a priori, LG est monté au capital donc de Shadow. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs. Je vous parlais des écrans de télé LG qui sont sur WebOS, donc on peut pas installer Shadow dessus. Bah, a priori, j'ai pas la confirmation, hein. Là, c'est des supputations. A priori, ils développeront donc une application Shadow pour les télé LG sous WebOS. Et ils parlent également des écrans Ultra Gear de chez LG qui devrait, et ça peut être intéressant, imaginez votre Shadow Ghost, le boîtier, directement intégré dans votre écran. Donc même plus besoin d'une quelconque unité centrale pour faire tourner votre PC à distance, l'écran suffira. Vous aurez juste besoin d'un écran qui accepte des connectiques quand même de clavier, de souris. Vous aurez juste besoin d'un écran pour jouer. Plus du tout de poste, le bureau clean. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait chez moi en scotchant la Ghost derrière un écran, mais c'est beaucoup moins clean. Donc ça va être intéressant et ça va permettre surtout à Shadow aussi de se lancer en Asie. Il parle justement d'un déploiement de Shadow en Corée du Sud. Donc c'est un énorme marché. Donc intéressant, bien pour Shadow, bravo à eux. Ça va pas être facile les déploiements internationaux, c'est une autre paire de manches, mais on leur souhaite tout le courage du monde. C'est quand qu'il n'y aura plus de liste d'attente? Est-ce que j'ai la tête de la hotline de chez Shadow? Franchement, je vous le demande. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas des questions auxquelles je peux vous répondre. Shadow n'est finalement que notre sponsor. Je suis pas dans les petits papiers de Shadow. J'ai pas eu cette info avant la presse, hein. Ces infos-là, je les ai lues dans la presse. J'ai pas été tenu au courant. Vous voyez, on est le dernier maillon de la chaîne. En scotchant la gauche derrière l'écran, vive la norme VESA, tout à fait. Non, je suis pas votre SAV, je suis pas le SAV de Shadow, surtout pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Tu sais au moins si la VR sera incluse ou une option payante. Oh, ça sera inclus, hein. Enfin, après, il faudra t'acheter ta visière, mais je pense pas que ça sera un supplément, quoi. Ça doit être bizarre d'être sponsor par une start-up sans revenu. Non, une start-up n'est pas sans revenu. Une start-up est en recherche de rentabilité. Une start-up fait des levées de fonds pour pouvoir construire son business, chercher ses clients et chercher sa rentabilité, son profit. Mais une entreprise n'atteint pas sa rentabilité avant un certain temps. Autrefois, on n'appelait pas ça du founding, il y avait d'autres termes, mais une entreprise, c'est très rare une entreprise qui commence tout de suite en étant rentable. Bon, on est en train de partir dans un... gardez vos questions sur Shadow pour le camp de fac. Promis, j'y répondrai, mais là, il faut qu'on avance. J'ai quand même une petite tartine à vous faire. Mais avant... on va justement parler de notre sponsor. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, puisque... pourquoi je prends un accent du Sud, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est le jour de notre grand gagnant de la semaine qui a gagné un mois gratuit à Shadow PC. Roulement de tambour. Eh bien, je vous le donne dans le mille. C'est JP Life. JP Life qui souhaite gagner un Shadow PC avec le mug Nautech pour jouer à Maiden 2020. Eh bien, écoute, JP Life, tes vœux sont exaucés. Et j'en suis très content pour toi. Tu as déjà, alors je le précise, il y a un faux compte qui a tendance à contacter les gagnants ou faire croire à certaines personnes qu'ils ont gagné à ce jeu. Je ne vous dirai pas le contenu du tweet que j'envoie aux gagnants, mais sachez une chose et retenez bien, c'est hyper important. Jamais on vous demandera quoi que ce soit. On vous demandera aucune information dans ce message. Donc, si vous recevez un message qui vous demande quelque chose, ce n'est pas nous. Voilà. Et effectivement, le compte Le Mug Nautech, ce n'est pas nous. C'est quelqu'un qui a créé un compte Twitter, Le Mug Nautech. Un Shadow pour jouer au démineur. On m'a posé cette question 50 fois, les mecs. Et la blague... non, ça, voilà, c'est pas compatible avec le démineur et Candy Crush, le Shadow. Sachez-le, c'est mort. Vous pourrez pas jouer à ça. Vous êtes en vacances, ouais, bah ça se voit, hein. Yes, ce vendredi 13 commence bien. Ah, c'est toi qui as gagné, c'est toi, JP ? D'accord. Eh ben, écoute, bravo à toi. Gardez vos questions, genre, quel est ton site de montage ? Je sais pas ce que c'est qu'un site de montage. Toutes ces questions, c'est à la fin. C'est dans les camps de fac. Ne vous égarez pas, puisqu'on se retrouve tout de suite, maintenant, pour la tartine. Eh ben, vous savez de quoi on va parler dans la tartine ? Ben vous ne le devinerez jamais, mais on va parler de Michel-Édouard Leclerc. Et c'est tout de suite dans la tartine. Et la tartine ce matin, je veux revenir sur un article qui est paru dans Capital. Un article sur Michel-Édouard Leclerc, le patron de Leclerc, qui promet un site pour contrer Amazon. Rien que ça. Leclerc à l'assaut d'Amazon. Et là, vous dites, mais c'est ridicule, Amazon, c'est beaucoup trop grand. Vous connaissez pas bien la distribution française. Effectivement, Michel Édouard Leclerc annonce le lancement prochain d'une grande plateforme de vente en ligne. Leclerc dispose aujourd'hui d'une dizaine de sites internet autour du drive, les voyages, les bijoux, la parapharmacie, la billetterie, le bricolage. Des portails qui totalisent aujourd'hui déjà plus de 3 milliards de chiffres d'affaires. Selon Michel-Édouard Leclerc, un chiffre qui se rapproche de celui d'Amazon. En 2018, le géant américain aurait réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en France. Alors effectivement, Michel-Édouard Leclerc va pas lancer un truc pour concurrencer Amazon Monde, mais pour concurrencer Amazon en France. Et c'est là où je vais avoir des questions à vous poser, on va y venir, hein, parce que vous savez, la tartine, on discute avec la chatroom. En tout cas, mes tartines à moi, hein, c'est pas un principe fondamental de la tartine, mais moi, généralement, c'est l'article où je discute un peu plus avec vous. Ce que nous dit le PDG de Leclerc, il veut dépasser Amazon sur le territoire français. Sur les 10 ans qui viennent, je pense que Leclerc sera le Amazon français avec des salariés en plus et des experts en plus. En revanche, il ne prévoit pas des livraisons en 2 heures qui sont proposées par Amazon, disant qu'en France, on n'a pas vraiment besoin de ces livraisons en 2 heures. Ce en quoi je suis assez d'accord avec lui, mais ça c'est presque un autre sujet. Parce qu'en France, il n'y aura personne à la maison. Enfin bon. Et donc voilà, ça va être quand même différent d'Amazon. Mais a priori, en regroupant toutes les activités de Leclerc, est-ce que... Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est de la fanfaronnade ou est-ce que vous pensez que... C'est faisable. Leclerc est quand même une chaîne assez énorme. Et c'est surtout ça, peut-être, la question la plus importante. Est-ce que vous êtes prêt à faire jouer votre patriotisme économique ? Imaginons que Leclerc arrive à faire un site aussi performant que celui d'Amazon, avec des prix relativement équivalents. Ou même si... Alors, ouais, parce que sinon la réponse est biaisée. Si je vous dis c'est la même chose, vous allez me dire oui, je switch sans problème. Imaginons que les prix soient un tout petit peu plus chers que ceux d'Amazon, mais avec de l'emploi en France, des garanties, etc., une fiscalité française, etc. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour un Amazon français ? Voilà, c'est mieux ça, cette question. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour un Amazon français ? Alors, dites-moi dans la chatroom. Il y a déjà 6 discounts en France, sauf pour le culturel. Oui, oui, il y a déjà aussi un des pure players en France. Hein. Il y a du potentiel à voir la com dessus et comment c'est géré. Oui, pas sûr sur la question est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour un Amazon français. L'exemple Fnac Darty, on décrète que non. Et ça, j'allais y venir. Peut-être qu'en déclaratif vous allez dire vous êtes prêt, mais on sait que par exemple Fnac Darty, ils ont du mal. Bon, Fnac Darty, c'est pas exactement français, hein. Maintenant c'est allemand, mais européen, on va dire. Ils ont pris trop de retard. Oui, sans aucun problème. Faudrait qu'en plus ils proposent un circuit court. Amazon sur français plus cher? Non, d'accord, au moins c'est franc. Amazon est tellement efficace qu'ils vont avoir beaucoup de boulot, ouais. Ces discounts, c'est des voleurs. Bon, on a droit à tout. Vous savez, chacun a son expérience avec les distributeurs. Et je défends pas ces discounts plus que ça. Hein. Ils sont sponsors sur une de nos vidéos récentes. Enfin, ils sont partenaires sur une de nos vidéos récentes. Mais j'ai pas plus de... Voilà, c'est juste un sponsor. On va pas se mentir, les Français achètent là où c'est le moins cher. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui prennent le risque sur les sites douteux. Ça, je suis assez d'accord avec toi, Steven. Disons que c'est là où souvent, je prends avec des pincettes vos attitudes déclaratives. On nous cloue au pilori, nous, youtubeurs, parce qu'on met des liens d'affiliation Amazon. C'est pas bien, pollueur, ils payent pas leur fiscalité, etc. Et parfois, dans ma tête, je me dis, le mec qui est en train de me clouer au pilori, là, c'est le même qui est allé commander sur Alibaba ou qui a fait une commande Wish. Voilà. Donc, je pense, un peu comme Steven, que c'est très dur de lutter contre les plus bas prix. Et le marché gris marche extrêmement bien en France, hein, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Des plateformes qui ont vraiment pignon sur rue, les gens s'y ruent. Et même si on leur dit, mais gaffe quand même, c'est du black market, c'est pas génial pour le commerce français quand même, le black market. Je rappelle, hein, le black market, c'est consister à acheter des produits dans d'autres pays sans payer les taxes liées aux produits nationaux. Ce qui permet d'avoir des prix plus compétitifs que les prix nationaux. Voilà. Beaucoup de gens déclarent, mais si, j'achète français, moi, monsieur. Je suis pour le soutien de l'emploi en France, mais dans les faits, c'est pas vrai. La boutique Natech, quand est-ce qu'elle décolle? En même temps, c'est dur de faire décoller une fusée qui n'existe pas. Nous n'avons pas de boutique pour l'instant. Parce qu'on n'a pas le temps d'en faire une. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Ne me pétez pas les couilles à me demander tous les jours, elle vient quand la boutique Natech maintenant? Quand on pourra? Les markets Fnac et Darty, c'est bourré de black market. Ces discounts donnent nos adresses téléphone pour les démarcheurs et téléphoniques. De toute façon, alors moi je vais vous dire, alors, c'est vrai qu'Amazon ils sont bons sur le SAV, mais j'ai déjà eu des galères Amazon, j'ai eu des galères avec ces discounts, j'ai eu des grosses galères avec la Fnac Darty. J'ai envie de dire, chacun a son expérience et certains ont des très mauvaises expériences avec certains distributeurs et du coup vont dire c'est les pires distributeurs du monde. Je crois qu'après, il y a des très mauvais distributeurs. S'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes avec un distributeur, au bout d'un moment, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des problèmes avec certains distributeurs et puis d'autres ne l'ont pas. Donc, c'est pas forcément... C'est comme les opérateurs. Il y en a qui vont me dire « SFR, c'est de la merde ». Et moi, je dirais que SFR, c'est de la merde parce que j'ai une mauvaise expérience avec SFR. Et d'autres vont me dire « Mais non, SFR, ça marche très bien chez moi ». Donc, voilà. Il faut un vrai service en plus, et magasins physiques bien utilisés peuvent être un avantage. Ouais, mais là on est en train de parler de pure player. C'est vrai que ces discounts revendent nos infos. Là, moi ce qui me surprend, c'est qu'on soit surpris. Parce que Amazon, alors Amazon ne revend pas exactement nos données, encore que, mais Amazon les exploite à fond, nos données. Donc oui, est-ce que ces discounts les revend à des acteurs tiers dans le commerce? Ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que vous avez lu les conditions quand vous avez mis vos infos? Et encore une fois, n'oubliez pas qu'ils ne revendent pas votre nom, ils revendent votre comportement d'acheteur sur le site, qui permet de faire du ciblage publicitaire. Et je ne suis pas en train de minimiser. Mais simplement, j'ai envie de dire, si vous voulez protéger vos données personnelles, n'achetez pas en ligne. Hein. Petit Pouillou, il faut faire marcher les Français, mais il faut que le service soit impeccable, sinon on part ailleurs. Le problème, Petit Pouillou, et merci beaucoup pour ton super chat, je pense que le problème, c'est qu'il y a un mal français, c'est qu'on est encore plus exigeant avec nos entreprises nationales que les entreprises internationales. Et j'en veux... J'ai plein d'exemples de ça. Des startups françaises, et beaucoup de startups françaises vous diront que les Français sont très durs avec leurs propres startups et vont facilement se jeter dans les bras d'un même service américain. Mais c'est les mêmes Français qui vont dire « Il y en a marre que les trucs qui partent aux États-Unis ». On est très, très critique et on est très pessimiste. Et on ne croit pas que des startups françaises peuvent réussir. Regardez les critiques que se sont pris Shadow. Je veux dire, il y a plein d'autres startups américaines qui prennent des retards, qui ont fait des trucs, qui ont fait des fausses annonces, des trucs comme ça. On continue avec elles. Mais une entreprise française à vocation internationale, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Boulanger, ils sont très bons en SAV. Bah écoute, tant mieux si tu as eu cette expérience. Amazon est plus le moins cher n'est plus le moins cher depuis longtemps, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a autre chose dans l'offre Amazon. Bah C'est vrai qu'Amazon n'est pas le moins cher hein, sur certains produits, mais il est ultra pratique, il est ultra bien fait. Tu as quand même beaucoup moins de problèmes en général. Le SAV est impeccable, je le dis. Il peut y avoir des problèmes, mais ils ont quand même, pour moi, un des meilleurs SAV. Le système d'affiliation, et là, je le dis en tant qu'influenceur, et j'ai pas peur de dire que je suis un influenceur, parce qu'il faut mettre les mots sur les choses, mais j'utilise les liens d'affiliation Amazon. Pourquoi ? Parce que, un, c'est les plus rentables pour les créateurs. Amazon paye bien. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, ils ont fait un vrai système d'affiliation qui fait qu'il est beaucoup plus simple à utiliser. Je vous donne un exemple, et Steven, s'il est encore là, il pourrait vous dire la même chose. Faire des liens d'affiliation vers la Fnac, vers d'autres distributeurs français, ça prend beaucoup plus de temps que de faire des liens d'affiliation vers Amazon. Et c'est une des raisons pour lesquelles les YouTubeurs utilisent autant les liens d'affiliation Amazon. Plus rentable et beaucoup plus facile à utiliser. Le Arnaud, merci pour ton super chat. Le français est râleur, ça m'énerve. C'est vrai que c'est chiant, putain. C'est français qui râle tout le temps. Font chier, les français. Je confirme, c'est un enfer sur tous les sites. Et c'est pour ça que tu utilises Amazon. Vous voyez, si Steven vous le dit, c'est que c'est vrai. Moi, je suis un gros menteur, tout le monde le sait. Mais Steven, on sait qu'il dit la vérité. À Lyon, ils sont même en train d'ériger une statue de Steven. Saint Steven. Voilà, en tout cas, pour cet article, c'était intéressant de voir un petit peu votre positionnement par rapport à un pure player français. Est-ce qu'il y a la place? Est-ce qu'on y arrive? On en a déjà. Et est-ce que Leclerc va y arriver? On en reparlera probablement. Mais il est déjà 9h01. On est super méga à la bourre, comme d'habitude, le vendredi. Mais on va quand même faire un cornfac, parce que l'heure n'est rien par rapport au plaisir d'être avec vous. Cette phrase ne veut rien dire, donc je balance tout de suite le générique des cornfac. Et c'est les cornefacs, le moment de l'émission où vous pouvez me poser des questions et je peux y répondre ou ne pas y répondre. C'est mon choix. C'est le vôtre. Est-ce qu'on a des questions platinium? Pas de questions platinium ce matin. Donc, vous pouvez directement me poser des questions. Alors, Oleg demande, Steven, c'est toi le mec à cheval place Bellecour? Eh oui, c'est une statue de Steven pourfendant un androïde, en fait, place Bellecour. Tu as dit que t'es en retard, Naotech, mais c'est toi qui te mets la pression tout seul, on a le temps. Oui, mais moi je l'ai pas. Alors, c'est une explication que je donnais. Les gens sont là, mais pourquoi tu stresses à dire que t'es en retard? Si l'émission me prend plus d'une heure par jour, c'est du temps de productivité qui est enlevé sur le reste de la chaîne. Et on ne peut pas se le permettre. Moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un de très bavard. J'aime bien être avec vous. Et si on ne met pas des limites, et Samuel, il est là pour me donner des coups de fouet. Arrêtez d'engueuler Samuel parce qu'il m'engueule. C'est moi qui lui demande de m'engueuler. Si on n'essaye pas d'être une émission d'une heure, c'est la fête du slip. Et à ce moment-là, je fais plus d'autres vidéos sur la chaîne. Je suis en live, je suis en stream Twitch toute la journée. Hein. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, un mug me prend 3 heures de travail par jour. Le mug nous prend 3 heures de travail par jour. On ne doit pas y consacrer une minute de plus, sinon ça va empiéter sur le reste de la productivité de la chaîne. Voilà. Pas plus de 9h10, Jérôme. Vous voyez, il me fouette déjà. Je fais ce que je veux, Samuel. Quel est le programme de la journée? Aujourd'hui, j'ai 3 réunions. J'ai un débrief sur une prod. Il faut que j'ai 1 heure pour écrire un texte ce matin. Et après, il faut que je continue l'écriture d'une vidéo pour demain. Et j'ai une conf-call ce soir. Voilà, le programme de la journée. Plus tous les imprévus. Comment on enregistre de la bonne qualité avec OBS ? Capitaine Jojo, est-ce que tu penses vraiment que je vais faire un tutoriel là sur... J'aimerais bien, hein. Mais écoute, OBS, d'abord, je ne suis pas un grand spécialiste d'OBS. Il y en a plein sur YouTube, tu devrais trouver. Futur iPhone 9 ou futur 10S reconditionné à 420. Romain, je vais te dire, est-ce que tu as besoin d'un iPhone ou est-ce que tu en as envie? Donc, si tu en as besoin, achète aujourd'hui l'iPhone 10S. Si tu as juste envie d'un iPhone, attends l'annonce du nouveau. Voilà. C'est la réponse la plus sage que je peux te donner. Un test à sa sortie du Fuji X-T4, caméra idéale à ce prix. Il y a beaucoup de choses à dire sur le X-T4. Je trouve que la caméra est vachement intéressante. Je ne suis pas en train de faire un test, hein, et je ne suis pas en train de vous dire que je vais faire un test. Mais je peux quand même vous donner un avis sur le X-T4. Le X-T4 est très intéressant dans ses possibilités. Ce n'est pas la caméra parfaite parce qu'elle n'existera jamais. Il y a des défauts au X-T4. Par contre, je trouve que le prix est quand même cher. Aujourd'hui, n'oubliez pas que pour ce prix-là, vous pouvez avoir un full frame chez Nikon, par exemple. Et je ne dis pas ça parce que Nikon est notre partenaire cette année, parce qu'il y a d'autres full frame chez Sony aussi, qui sont à peu près... Donc, le Fuji X-T4, il est bien. Quand on aime Fuji et la patte Fuji, on n'hésitera pas, on achètera le Fuji X-T4. Il a comblé pour moi quasiment tous les défauts que je reprochais au X-T3. Donc c'est une caméra qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime Fuji. Mais il faut être prêt à en payer le prix. Fuji est un tout petit peu en train de devenir Apple. Dans le sens où c'est pas les prix les plus compétitifs du marché. Ça c'est clair. Un test du Nikon Z50. Vous pouvez avoir des cahiers d'oléances, des tests que vous voulez et tout, mais je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas sans mon avocat. Je ne promets jamais de vidéo. Je ne sais pas. Peut-être il y aura du test du Z50. Mais on n'a pas un planning sur l'année des vidéos. Et surtout, je ne veux pas. Parce que parfois, il y a des vidéos qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire. Ça crée des déceptions. Moi, ça me fait des boules dans le ventre. J'endors mal la nuit et je ne déconne pas. J'ai horreur de vous promettre des choses que je n'arrive pas à faire. Ça me ronge. Et je veux pour 2020 le faire de moins en moins. Je sais que je suis un connard parce que souvent dans les vidéos, je vous promets « Oh bah ça, on en parlera dans une autre vidéo et tout ça. » Parce que j'ai envie de vous en parler dans une autre vidéo. Puis après, la réalité, elle me rattrape, elle me tombe dessus, elle me plaque au sol. Et j'ai pas le temps de faire la vidéo que je voulais vous faire. Donc, j'essaye d'être moins un connard. Donc, ne me demandez pas si je vais faire des vidéos sur tel ou tel truc. 1800, c'est plus cher qu'un Z6. Ouais, en plus. Les optiques de Fuji sont de bonne qualité, beaucoup moins chères que les autres. Ah, alors là, mon crâne, il y a des choses à dire. Elles sont un peu vieilles, hein, les optiques de Fuji. Elles sont bonnes. En photo, elles sont bonnes. En vidéo... Et elles sont bonnes, mais il manque à Fuji... Une gamme vraiment pro et chère, avec des ouvertures beaucoup plus grandes. Il y a des choses, je trouve, qui manquent dans leur catalogue d'optique. Elles sont bonnes, mais il n'y a pas que des bonnes optiques chez Fuji. Regardez des tests d'optique Fuji. Hein. Elles sont pas si bon marché que ça. Hein. Elles ont quand même des ouvertures beaucoup moins grandes que d'autres optiques. Alors, comparez ce qui est comparable. Jérôme, tu penses quoi de la médiation et du bouquin Le pouvoir de l'argent présent? Je n'en pense rien parce que je ne sais même pas de quoi tu me parles, Théo. Le pouvoir de l'argent présent, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu. L'autofocus, il est foiré, Jérôme? Des fois, tu te mets en arrière et tout flou. Oui, bah, on est sur un GH5S. Me parlez pas d'autofocus. AF chez Panasonic. Et Dieu sait si j'aime les Panasonic. Mais AF chez Panasonic, ça veut dire aléatoire focus. Et ça veut pas dire autofocus. On se trompe depuis chez Panasonic, ils sont très clairs. AF, chez nous, ça veut dire aléatoire focus. On n'a jamais promis d'autofocus. En plus, je crois que j'ai même pas activé l'autofocus. Ah oui, non, j'ai même pas activé l'autofocus, je crois. Ou alors, je suis dans un mode bizarroïde. Le Z6, c'était ton choix ou celui de Nikon? C'est notre choix. Il faut bien comprendre un truc sur Nikon. On n'a pas choisi de signer avec Nikon par hasard. On a choisi d'abord parce qu'ils voulaient. Ça, c'est vrai. Mais d'autres voulaient aussi. Enfin, non, ça, c'est pas vrai. Mais d'autres auraient pu vouloir. Mais avant de dire oui et avant de signer avec Nikon, il fallait une caméra qui nous intéresse. Et le Z6 m'intéressait beaucoup par certaines possibilités, même si je savais d'avance qu'il y avait certaines choses que le Z6 ne faisait pas. Mais c'est pour ça que le contrat qu'on a passé avec Nikon, ce n'est que 50% de notre production. On n'a pas lâché nos GH5. Il y a encore des tonnes de choses qu'on fait avec le GH5. Et le gros avantage, c'est que les Nikon Z6 et les GH5 marchent très bien ensemble. Non, je reste jusqu'à 9h15, Samuel. Voilà. J'ai envie de rester jusqu'à 9h05. Jérôme a saccagé mon message. Merde, Théo. Qu'est-ce que j'ai mal lu? T'as mal lu. Le commentaire, c'est instant présent et médiation. Attends. Méditation, pardon. Instant présent et méditation, pardon, Théo. Médiation. Est-ce qu'on filme en ProRes RAW avec le Z6? Non, mais pour une raison, surtout. C'est qu'on n'a pas deux enregistreurs et on préfère travailler avec deux caméras. La plupart de nos vidéos sont filmées à deux caméras, donc j'ai pas envie d'une qui filme en ProRes RAW et l'autre qui ne filmerait pas en ProRes RAW. On a effectivement deux Z6. Hein. Le truc avec le ProRes RAW, c'est que pour nos émissions qu'on filme à l'intérieur de l'atelier, ça servirait pas à grand chose parce qu'on connaît nos réglages, on sait ce qu'il faut. Là où par exemple le ProRes RAW m'intéresserait beaucoup, c'est quand je vais filmer sur des salons. Parce que sur des salons, généralement, la white balance, enfin la balance des blancs, elle est à chier. Parce que d'un stand à l'autre, on a des shifts complets de balance des blancs. Et un des gros avantages du ProRes RAW, c'est de pouvoir changer sa balance des blancs en post-prod. Ce que tu ne peux pas faire avec d'autres formats vidéo. Donc voilà, je donne un insight. Le ProRes RAW est un super format pour certaines productions, mais pas pour tout faire. Le ProRes RAW, c'est à chier. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Steven. C'est parce que tu l'as trouvé sur X quand... Il faut savoir que quand l'image apparaît, elle est méga sur X. Mais je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai vu là des fichiers ProRes RAW et la capacité de correction que tu as dessus, c'est hallucinant. Je sais pas ce que tu as fait comme expérimentation avec le ProRes. J'ai eu un Sigma Art 24-70, on me l'a volé il y a bien longtemps, mais c'est un super objectif. Tu enregistres en MP4, ça dépend, parfois MP4, parfois Move, en fait on s'en fout maintenant de l'encapsulage. Attention, l'encapsulage, ce n'est pas... pas confondre encapsulage du fichier et codec, c'est pas la même chose. Le MP4, c'est qu'un encapsulage. Bon qualité-prix pour le 24-70 F4. Bon objectif à tout faire de vacances. Oui, il est bien, il est léger, il est solide, il est bien. Nicolas, Jérôme, peux-tu me dire quel adaptateur il faut que j'achète pour brancher un micro-cravate sur le Rode Wireless Go? A priori, tu n'as pas besoin d'adaptateur. Un micro-cravate jack rentrera dans la prise jack du wireless. T'as pas ces problématiques de brancher un micro-cravate directement sur un smartphone avec le TRRS ou le TRS. C'est du jack, donc pas de problème. X105, XT3 et Pro 3, qu'en penses-tu en photo? Et tu as compris le positionnement? Non, je ne comprends pas ce que tu veux me dire, Zuber. Des infos sur le Canon R5. Oui, en exclusivité mondiale, j'ai la vraie fiche de spec du R5. Non, je n'ai pas plus d'infos que les autres. Que penses-tu du Canon 90D? Je ne l'ai pas testé, mais écoute, c'est du bon Canon. Après, il y a... Le problème de Canon actuellement, c'est la rétention technologique. C'est peut-être des choses qui vont changer. Mais le 90D, je dirais qu'il est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Le Sony A7 III, oui, encore d'actualité. C'est une très très bonne machine, l'A7 III, avec un très bon positionnement prix. La review du Pixel 4, c'est prévu pour quand? Je ne sais pas si je la ferai. C'est prévu pour quand ça sera fait. On ne donne pas de date, on ne promet aucune vidéo. Est-ce que le A7 S3 sortira un jour? Alors là, déjà ça sortira après la PS, après la console, puisque la console a bouffé toute la mémoire vive des... Allez, il est 9h15, là, je vais arrêter de pousser le bouchon trop loin. Mais vos questions sont super intéressantes. On continuera à y répondre dans la semaine. Et pour ça, je vous invite à revenir les poser, par exemple lundi, puisqu'on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, appliquez bien les mesures de sécurité entre vous. Il est important de comprendre que le corona, ce qui est grave, c'est l'encombrement des hôpitaux. Donc, prendre ces mesures de sécurité, de prévention et de barrières sont pas importantes pour vous, mais importantes pour les autres. Et je ne paraphe absolument pas notre président, que je ne cautionne pas particulièrement, mais il a eu raison de dire que c'est une crise à affronter ensemble et pas avec des comportements individuels. Donc, pour une fois, jouons collectif, hein, en France, et puis on va s'en sortir. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à lundi. Ciao tout le monde et passez un bon week-end.